Bonjour chers éditeurs de Radio Grand Ciel, nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Monsieur l'abbé Jacques Potier, qui est prêtre du diocèse de Chartres et qui nous fait le grand plaisir ou l'honneur d'être avec nous ce matin pour aborder dans notre série sur les sacrements chrétiens, le sacrement du mariage. Bonjour Monsieur l'abbé.
Bonjour Madame, avec joie pour partager
vous êtes,
avec vous.
Oui, je suis très heureuse de vous avoir dans le studio. Vous êtes l'auteur d'un petit livre très important et très intéressant, Des chemins de l'amour, que l'on peut recommander à nos auditeurs car il contient des méditations.
Et des documents, et il est assez bien parti, c'est vrai que ça se vend bien.
Oui, on peut le trouver facilement
oui,
à la procure,
notamment
à la cathédrale,
procure, on peut le commander.
Alors, le mariage, c'est une institution un peu mise à mal en notre époque. On parlait autrefois de la sainteté du mariage. C'est une institution divine et qui est fortement ébranlée par le cinéma, par le théâtre, par la presse, par la loi même. On ridiculise, on ravale au rang de simple union momentanée ce qui est d'institution divine. Peut-être c'est là, effectivement, le début de notre émission. D'où vient le mariage chrétien ?
Bon, là, vous parlez tout de suite déjà de la situation d'aujourd'hui, des difficultés, et en même temps, vous faites allusion à l'origine. Et c'est vrai qu'on pourrait peut-être commencer par cela. Ce qui est frappant dans le sacrement du mariage, puisque c'est un sacrement pour nous chrétiens, c'est qu'il y a une réalité humaine très forte, comme dans tous les sacrements, l'eau pour le baptême, l'huile pour la confirmation, le pain, le vin pour l'Eucharistie. Quelle est la matière propre du sacrement du mariage ? C'est la réalité humaine elle-même. C'est pour ça qu'on pourrait dire, et d'ailleurs l'Église l'a soutenu, que c'est le plus ancien des sacrements. Certains ont mis un peu en interrogation, est-ce que c'est vraiment un sacrement ? Le Concile de Trente l'a affirmé que c'est le Christ lui-même qui l'aurait institué. C'est vrai qu'on ne voit pas les textes lui-même qui le signalent, mais en fait, comme créateur, Jésus, lié au créateur, a fait allusion à ce fait que, dès l'origine, lorsqu'on lui pose une question, est-il possible de vivre ensemble ? Est-ce que c'est une loi divine ? Est-ce qu'on peut se séparer ? C'est en saint Matthieu, au chapitre 19. Eh bien, à l'origine, il en était bien ainsi. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Donc, ce qui est intéressant, c'est au commencement. C'est que le Christ fait allusion au livre de la Genèse où... En créant le monde et en créant le premier couple humain, Dieu a voulu qu'ils soient unis. Homme et femme, il les créa. À l'image de Dieu, il les créa. Et donc, le Seigneur a voulu explicitement lier cette réalité du mariage, où on se posait la question pour ses contemporains de l'époque, à penser ce que Dieu a voulu de toute éternité. C'est pour ça que c'est le sacrement qui a une réalité naturelle, fondamentale, qui a été voulue par Dieu dans la nature même des choses.
Peut-être à cet égard, on peut rappeler le vitrail dans la cathédrale de Chartres, dans le bas-côté sud, qui est consacré au bon samaritain et qui montre dans la partie supérieure la création d'Adam et d'Ève. Et Ève et Adam sont, tant qu'ils n'ont pas péché, étroitement, visuellement, physiquement unis. On les montre collés l'un contre l'autre. D'ailleurs, Dieu crée Ève en tirant dans notre vitrail Ève du flanc d'Adam endormi. Mmh. Et c'est important peut-être à cet égard de rappeler que c'est Yves de Chartres, évêque de Chartres, qui a formulé et contribué dans un grand sens à la formulation du sacrement.
Vous faites bien de souligner l'importance de ce vitrail qui est très beau. Hein. De fait, on voit nettement Ève qui est tirée du côté d'Adam. Et les pères de l'Église, Augustin et d'autres, ont signalé que c'était une prophétie de l'Église elle-même qui sortait du cœur du Christ. Et il est vrai que ce vitrail est une méditation sur la création et la rédemption. C'est le Christ qui reprend justement cette humanité qui est blessée, puisque c'est, vous faites bien de dire que c'est le vitrail du bon samaritain, symbole d'une humanité blessée, et c'est Dieu lui-même qui passe après que la loi n'a pas su justement sauver l'humanité. C'est le Christ qui vient reprendre l'homme blessé pour le conduire à l'autellerie, c'est-à-dire à l'église. Dans l'église, l'homme va se refaire complètement avec l'eau, le vin, les sacrements qui vont constituer à la régénération de cet être humain. C'est vrai que il est bon de voir ce vitrail, un des rares vitraux qui rappelle justement cette création de l'homme et de la femme.
Alors, et non pas, il faut peut-être aussi rappeler aux auditeurs que c'est une interprétation erronée de dire que Dieu aurait créé un homme androgyne, moitié homme, moitié femme. C'est un peu l'interprétation que donne parfois, des gens qui cherchent peut-être ailleurs que dans la Bible.
Oui. Donc il y a une allusion très nette au deuxième chapitre de la Genèse, puisque vous savez qu'il y a deux chapitres qui montrent la création. Le premier chapitre manifeste l'unité de l'homme et de la femme créés à l'image de Dieu. Et dans le deuxième récit, on voit très nettement qu'il y a une distinction des deux. Et que, justement, l'amour va naître par ce cri de la femme bien, bien séparée, donc en disant, l'homme plutôt, qui va dire « c'est l'os de mes os », et c'est ce premier cri d'admiration qu'on peut dire comme c'est le premier cri de l'amour. Alors, chose étonnante, c'est que peu de temps après, ces mêmes qui ont été en admiration vont dire, après le péché, mais c'est elle qui en est la cause, mais c'est lui, et donc la dissension, hélas, est déjà signalé concrètement pour montrer la difficulté de cet amour qui souvent part bien mais qui a du mal à vivre la fidélité.
Donc institution, le mariage, sacrement d'institution divine, scripturaire même, institué par notre Seigneur Jésus-Christ, et l'homme et la femme sont destinés à être unis, à se compléter, parce que justement, il y a une différence entre l'homme et la femme, même si avec la théorie du genre qui va être enseignée à la rentrée en 2019, qui sera enseignée dans les lycées, veut nous dire qu'il n'y a pas de différence. Mais il faut les accepter, on peut se compléter, on peut les outrepasser, mais le mariage donc est là parce que l'homme et la femme se complètent.
Voilà, la création dans sa réalité biologique naturelle pour l'Église est fondamentale. Le culturel et l'idée de l'homme ne peut pas dénaturer et reprendre au nom d'une idéologie cette réalité-là. Alors, vous faisiez allusion que c'est une institution divine, donc dans un premier temps, j'ai un peu signalé qu'il y avait un aspect de la nature prévu dès l'origine. Le Christ a repris cela et j'aime le dire lorsque je prépare les jeunes au mariage, qu'il y a en Cana, dans cette scène magnifique, le fait que Jésus se laisse inviter dans cette réalité naturelle pour lui donner une dimension nouvelle. Car le mariage, dans sa beauté, dans sa fragilité aussi, a besoin d'être restauré. Et je crois que c'est cela, le sacrement du mariage, c'est dans la réalité de la rédemption, la nécessité de la grâce pour purifier, sanctifier, élever cette nature humaine qui est blessée. Vous voyez, il y a le réalisme du péché originel qui traverse toute la vie humaine, et particulièrement aussi, comme la réalité humaine fondamentale, la réalité de la famille a besoin d'être sanctifiée par la passion du Christ, parce que tous les sacrements viennent de la passion du Christ, c'est-à-dire une grâce qui purifie, élève la nature humaine.
C'est très beau ce que vous venez de dire, monsieur l'abbé, parce que cela veut dire que Jésus a fait son premier miracle lors d'un mariage.
C'est ça.
C'est effectivement sous-entendu une sanctification aussi du mariage.
D'autant plus que si on voit le texte donc en Saint Jean, on voit que c'est vraiment dès le début, après avoir choisi ces cinq premiers apôtres, vous savez, donc André, Pierre, Nathanaël, Philippe, etc. Eh bien, ces cinq premiers donc sont amené avec la Vierge Marie, c'est le commencement, dès le début de l'Église, dans ce sens où le Christ, d'une façon apostolique, a appelé ses premiers disciples, ils sont avec lui et la Vierge Marie pour son premier signe. C'est-à-dire que ce premier signe a une valeur, dans Saint Jean, toute particulière pour montrer que c'est l'amour humain qui a d'abord besoin d'être sanctifié. Donc la famille est au cœur du projet de Dieu, non seulement au niveau de la création, mais au niveau de la recréation, dans la grâce du Seigneur.
Béatus, 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 Béatus.
Monsieur l'abbé Jacques Potier, vous êtes avec nous aujourd'hui dans le studio de Chartres pour parler du sacrement du mariage. Nous avons vu qu'il est d'institution très ancienne. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui l'a institué. Et nous voudrions parler du sacrement. En quoi c'est un sacrement ? Et parlez-nous aussi de l'unité du mariage. On ne se marie pas pour se dire, dans 10 ans, je vais peut-être changer de femme. Dans l'Ancien Testament, Abraham, il avait 2 femmes. Pourquoi je n'en aurais pas 2 non plus ? Donc parlez-nous de l'unité et de ce désordre que constitue le divorce et aussi du drame qui découle pour l'éducation des enfants. C'est très complexe. On ne peut pas, en une petite émission, aborder tous ces thèmes, mais c'est peut-être important de parler que se marier, c'est un projet de vie.
C'est ça. Donc on a dit que c'était d'institution divine liée à la nature et de la création que le Christ avait repris. Et justement, il s'est élevé au niveau d'un sacrement parce que, comme tout sacrement, c'est le signe d'une réalité divine. Alors quel est le signe de la réalité divine du sacrement du mariage ? Eh bien, c'est que l'union de l'homme et de la femme va être le signe de l'union du Christ avec son Église. Non seulement le signe, mais entrer dans cette dynamique de l'amour qu'a le Christ pour son Église et que les époux vont se donner eux-mêmes la grâce qui découle de cette union du Christ avec son Église. Et vous disiez, mais alors l'unité, en quoi c'est important ? Eh bien, vous l'avez là, en réalité. Cette unité du sacrement du mariage découle de 2 choses. En fait, on n'a pas fait allusion à cela jusqu'ici, mais il y a déjà dans l'Ancien Testament un thème de l'alliance, c'est-à-dire Dieu s'approche de l'humanité. Et il y a un moment où Dieu s'incarne, c'est-à-dire il épouse la nature humaine. Et donc, on peut dire que le sacrement du mariage renvoie déjà à cette alliance et épousailles de Dieu avec l'humanité dans le Christ. C'est-à-dire que la nature humaine et la nature divine ne font qu'un dans le Christ. Et donc, vous savez, les pères de l'Église ont parlé de cela. Hein, et déjà, on voit bien dans le terme de l'alliance, il y a l'alliance dans l'Ancien Testament, il y a cette approche de Dieu avec les hommes et il ne fait qu'une seule chair avec l'humanité. Donc c'est déjà un premier sens. Et ensuite, le Christ a parlé dans ses paraboles de son royaume comme d'une union nuptiale entre Dieu et les hommes. Et finalement, saint Paul a précisé cela en disant que, au chapitre 5 des Éphésiens, qu'il y a une union de l'homme et de la femme qui rappelle l'union du Christ avec son Église. Et on n'a jamais entendu dire que le Christ s'est séparé de son Église. C'est une union indissoluble. Parmi les différentes images de l'Église. Vous avez l'image peuple de Dieu, vous avez l'image de l'Église temple de Dieu et l'image aussi de l'Église, surtout très, très importante, du corps du Christ. Mais il y a aussi l'image de l'Église comme épouse. L'Église est l'épouse du Christ. Et d'ailleurs, je pense que dans l'Eucharistie, le côté positif face au peuple, ça serait justement cet aspect-là. C'est pour montrer que le Christ est face à son Église épouse. Et donc, on ne fait qu'un. Donc, il donne dans l'Eucharistie, qui est aussi un sacrement nuptial. Hein, c'est pour cela qu'il y a un lien profond entre l'Eucharistie et le sacrement du mariage. C'est ce qui fonde d'ailleurs le fait que c'est dans le sacrement du mariage que les époux sont vraiment habilités à recevoir le Christ époux de leur âme. Et recevant le Christ l'époux de leur âme, ils doivent considérer leur époux ou l'épouse à côté comme étant reçu de Dieu. Donc il y a une certaine adéquation entre le Christ reçu dans l'Eucharistie et l'époux et l'épouse reçus, hein, donc par le sacrement du mariage. Et c'est pour ça que saint Paul n'hésite pas à dire que l'union du Christ avec son Église est le modèle et la première union qui est inséparable, indissoluble, et donc la réalité naturelle du mariage qui postule un amour qui se donne, un amour qui est fidèle, eh bien postule aussi dans la fidélité, cette notion d'indissolubilité. D'ailleurs, ça va un peu de soi. On voit bien que quand les époux se disent « je t'aime », c'est, ça sous-tend à une dimension d'éternité, de temps, hein, d'une réalité qui doit durer, qui doit être fidèle. On ne conçoit pas, au départ tout au moins, des jeunes qui disent « je t'aime, mais bon, je ne sais pas ce qu'il en sera dans 5-10 ans hein. ». Pour l'instant, même hélas, si ça peut se dire, on perçoit qu'il y a quand même là une réalité qui est vraiment pénible de considérer que la fluctuation des passions risque d'être le premier élément de l'amour, alors que c'est un don de soi qui postule nécessairement la fidélité et donc, par le sacrement du mariage, à l'image du Christ et de l'Église, une indissolubilité.
C'est un peu aussi l'image du portail nord où Jésus couronne la Vierge Marie. C'est l'image du Christ qui couronne son Église. C'est l'unité de l'Église et de époux divin. Okay. Donc l'unité du mariage, l'amour qui est à la base du mariage. Pourquoi s'unir? C'est parce qu'on s'aime. Mais l'amour va laisser place à d'autres sentiments. On crée un projet familial, d'avoir des enfants. L'éducation, ce n'est pas facile tous les jours. Quand les enfants entrent en adolescence, on peut se heurter à des différences d'opinion, de comment est-ce qu'on va éduquer, comment est-ce qu'on va réagir. Donc il faut surmonter des difficultés. C'est ça un peu le but aussi dans le mariage, de surmonter ensemble des difficultés et de se dire, malgré les dissensions, on reste ensemble.
C'est cela. Et je crois que pour l'éducation, les enfants, la première réussite, c'est de voir que des époux s'aiment et à travers même leurs petites difficultés dont ils sont souvent témoins, il y a une durée, et il y a une réalité institutionnelle, mais aussi de fidélité et d'amour. Et l'exemple de l'amour interpersonnel des époux va être un appel pour les enfants à considérer ce que c'est que la relation affective profonde qui est faite de respect de l'autre, qui est faite de confiance en l'autre, et voyant l'exemple de la confiance et du respect qui peut se vivre au niveau des époux, les enfants vont entrer dans cette dynamique de respect et de confiance qui sont vraiment les valeurs premières qui sont les bases d'une réussite possible, avec la grâce de Dieu, d'une éducation qui sera toujours difficile parce qu'il n'y a pas que les influences de la famille, il y a aussi les influences du monde, de l'école, des médias, où l'enfant sera affronté à traverser cela. Mais si au sein de la réalité familiale, il a l'exemple d'un couple qui vit une réalité interpersonnelle, d'abord de fidélité, et même s'il perçoit qu'il y a eu quelques discussions, dissensions, ils sont toujours là. C'est pas à mettre en cause, je crois que c'est facteur de stabilité. Et je crois que ça, l'enfant a besoin de sécurité, a besoin de stabilité qu'il voit dans les parents qu'il a journellement devant lui.
Après une petite pause musicale, on va aborder le mariage dans notre société actuelle et la préparation au mariage.
Oui, je veux bien, merci.
Alors, dans la société actuelle, monsieur l'abbé Potier, dans la société actuelle, quel est le statut du mariage, justement, avec toutes les lois qui viennent de passer, la procréation artificielle? On a parlé du projet de vie, d'avoir des enfants, c'est un projet du mariage, justement, le but du mariage. L'enfant, c'était un don de Dieu, il y a les drames de familles qui ne peuvent pas avoir d'enfants, on le comprend. Mais maintenant, il y a cette chose efficacité de l'enfant. On va le créer sur demande. Oui. Et puis, vous préparez des jeunes gens au mariage. Je pense que c'est important. On se dit, oh là là, un prêtre n'est pas marié. Qu'est-ce qu'il en sait du mariage? C'était ma première réaction aussi, il y a quelques 30 ans. Mais en fait, comme vous n'êtes pas marié, vous êtes neutre. Vous n'allez pas prendre parti ni pour la femme, ni pour l'homme. Vous voyez les choses d'en haut. Et c'est pour cela... pour cela que le célibat, c'est très important, à mon avis. Il y a des gens qui sont d'un autre avis, mais quel est le statut du mariage aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des jeunes gens qui désirent se préparer au mariage?
Alors, il y a plusieurs questions. Vous avez commencé en parlant des difficultés d'aujourd'hui. Vous savez que c'est le divorce, hein, ça c'est la grande difficulté. On a fait allusion tout à l'heure à la nécessité de la fidélité. Et c'est vrai qu'on ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est normal que la réalité humaine de l'attrait soit vraiment une dimension de l'amour, mais en même temps, il y a un moment où il faut prendre conscience que c'est Dieu qui nous unit, se recevoir comme venant de Dieu. Et vous disiez, mais alors, le prêtre a sans doute un rôle à jouer dans la préparation pour justement cette réalité-là. Quand les nombreuses années que j'ai pu être comme curé dans différentes paroisses dans le département, j'ai encore maintenant, j'ai préparé de multiples fiancés. J'ai toujours perçu mon rôle comme une écoute de leur cheminement et en même temps donner ce que l'Église, mais pas simplement l'Église, l'Écriture, le projet de Dieu. Est-ce que le projet qu'on a, qui a une réalité humaine, on sait bien qu'ils s'aiment, qu'ils se font confiance, est-ce qu'ils ont un projet aussi de vie, de donner aussi la vie, parce que dans les conditions de la préparation du mariage, vous savez qu'il y a plusieurs points qu'on demande. D'ailleurs, c'est signé dans ce qu'on appelle la déclaration d'intention, qui comprend nécessairement de s'engager librement. C'est pas évident. C'est sûr que à une époque, il y avait les mariages princiers, tout cela. C'est pour cela que la liberté et reste encore d'ailleurs des pressions de famille qui font que il faut vraiment que les jeunes puissent dire on s'engage librement, qu'ils aient conscience que c'est un acte qui doit se vivre dans la fidélité. Et dans l'indissolubilité, qui est encore la notion sacramentelle, comme on l'a dit tout à l'heure, qui justifie cette réalité d'être ensemble, et l'ouverture à la vie. Et vous faisiez tout à l'heure allusion à cette réalité que, eh bien, maintenant, même dans le don de la vie, on sait très bien que, non seulement dans la conception, mais aussi dans la réalité de donner la vie, eh bien, il y a les lois humaines qui ne favorisent pas ce que l'Église a toujours promu comme une réalité essentielle. Le mariage, c'est aussi pour le don de la vie. C'est pour, bien sûr, la communion des personnes. Dans les biens du mariage, il y a la fidélité, il y a la communion des personnes, et il y a aussi le don de la vie. Alors, à une époque, c'était d'abord, on se mariait pour avoir des enfants. Maintenant, on se marie pour une relation interpersonnelle, et on risque de mettre vraiment au second plan, mais quelquefois très loin, la réalité du don de la vie. Et c'est vrai qu'il y a une culture qui ne porte pas à cette générosité du don de la vie. Et dans la préparation au mariage, il y a donc cette perception que si deux jeunes s'engagent en disant nous, vous savez, nous, c'est pas le fait d'avoir des enfants qui compte, ça poserait question. Donc, il faut, dans la préparation du mariage, montrer cette réalité humaine, profonde, que le Seigneur aussi a voulu. Et l'Église est témoin de ce que les jeunes vont dire dans cette cérémonie où il y a un échange du consentement. C'est vrai, ils se sont déjà dit oui, mais ils ne se sont pas dit oui devant Dieu. Et il y a l'appel de l'Esprit-Saint. Moi, j'aime bien cette bénédiction nuptiale où il y a un rôle de l'Église. Alors, évidemment, la théologie du mariage a eu des accents quelquefois différents, c'est-à-dire que le prêtre ou le diacre n'est que témoin sans aucune action. En Orient, on a toujours pensé qu'il y avait un appel de l'Esprit-Saint et que plus qu'un témoin passif, il y a aussi une action de Dieu. Donc je crois que c'est cette conjugaison de ces deux réalités, de la réalité humaine du consentement et en même temps l'appel de l'Esprit-Saint dans la bénédiction nuptiale qui fait que le oui est scellé dans le oui du Christ. Il se marie à trois. on pourrait dire. Il y a d'ailleurs ce qui prouve la dimension trinitaire un peu du mariage, bon, au point de vue humain, c'est-à-dire que deux êtres qui vont être source d'un troisième dans l'enfant, mais aussi dans la cérémonie, cette présence du Christ qui est là avec au milieu d'eux pour sceller leur oui et pour leur donner cette assurance que la grâce de Dieu leur sera donnée dans la mesure même où ils l'accueilleront, où ils prieront, où ils auront la foi. C'est pour ça que c'est un sacrement aussi qui doit être reçu dans la foi. Et même s'il y a une réalité purement humaine qui est le sacrement du mariage, normalement, et Benoît XVI avait été assez insistant là-dessus en se posant la question, mais quand il n'y a pas de foi explicite, dans quelle mesure on peut considérer que c'est vécu, qui reçoivent validement le sacrement du mariage? Alors, c'est souvent une foi implicite, et c'est pour ça que la préparation au mariage va permettre de faire le point sur la notion d'alliance. Moi, bien souvent, sans faire une grande catéchèse théologique, par la conversation, on montre que leur alliance, eh bien, c'est le symbole, la parabole de l'alliance de Dieu avec les hommes, et que eh bien, c'est important que cette notion d'alliance soit ratifiée par une bénédiction qui va montrer que le Christ fait alliance avec eux.
Mais il n'est pas inutile de rappeler que le sacrement du mariage, comme le sacrement du baptême, ce sont les deux sacrements où la présence d'un prêtre est souhaitable, mais en cas de nécessité, mort imminente d'un enfant, ou absence de prêtre, imaginez une société où il n'y aurait plus de vocation, plus de prêtres, que le mariage peut se donner par consentement mutuel des époux ou devant Dieu.
Alors, il est vrai que dans la primitive Église, on ne sait pas jusqu'à quel point il y a eu une présence des prêtres assez rapidement. Ce qui est certain, c'est que c'est au nom du baptême, c'est se marier dans le Christ. Et donc, ce sera qui ferait le sacrement en tant que tel. Et donc, l'Église, qui a, entre guillemets, un certain pouvoir sur les sacrements, a légiféré pour montrer que dans ce rite, la présence explicite de l'Église était importante. Jusqu'à quel point, on va pas penser que, évidemment, il y aura plus de prêtres à tel point que, eh bien, je pense qu'évidemment, deux baptisés pourraient peut-être prier et justement s'unir dans le Seigneur. Ça, s'il n'y a pas de prêtre, mais pour le baptême aussi. On sait que les laïcs peuvent, en cas extrême, eh bien, justement, ça a toujours été dit, montrer que le Christ, eh bien, dépasse la forme des sacrements et rejoint ceux qui appellent le salut.
Ça reste un sacrement, mais c'est le laïc qui peut suppléer à l'absence d'un prêtre.
Oui, il y a déjà des diacres et éventuellement jusqu'à quel point on pourrait le considérer. C'est vrai qu'en Corée, lorsqu'a commencé le christianisme, il n'y a pas eu beaucoup de prêtres à ce moment-là, mais les baptisés priaient et faisaient sans doute une cérémonie d'engagement devant Dieu.
Donc le mariage dans notre société, qui est attaqué de partout, ce sacrement très ancien, il a toujours sa place et nous n'avons malheureusement pas dans cette émission qui est près de s'achever le temps de parler des nouvelles formes d'union, les prétendus mariages, enfin appelons ça des unions qui créent autant de problèmes qu'ils n'en résolvent. Donc merci beaucoup monsieur l'abbé Jacques Potier d'être venu pour nous parler du sacrement du mariage dans notre société actuelle. À une très prochaine fois pour une autre émission. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Très bonne journée aux auditeurs et merci à Simon à la technique.
Merci aussi de m'avoir invité. C'est toujours une joie de partager avec vous. Au revoir.